L'émission Bonjour la vie est rendue possible grâce à la précieuse collaboration de la Conférence des évêques catholiques du Canada par le biais de la Fondation de la vidéo religieuse. Ici Royal Saint-Arnaud, c'est maintenant l'heure de Bonjour la vie. Je vous présente le sommaire dans quelques secondes. À Bonjour la vie aujourd'hui, Yvan Mathieu nous dit « Où puiser le sel et la lumière au quotidien ?» Serge Saint-Arnaud est missionnaire en Afrique. Au commentaire d'Évangile, Jean-Yves Marchand nous dit que Dieu peut nous rendre lumineux. À la chronique Le Pour vous, un beau texte de Charlotte Gill, qui est religieuse du Bon Pasteur, le sel, la lumière. Et en chanson, nous accueillons Robert Lebel. Il y aura également 14 chanteuses du Québec qui se sont regroupées, et vous allez reconnaître cette chanson. Et en musique, le pianiste Daniel Mercure. Bonne émission, Madame, Monsieur. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Bonjour la vie. On va avoir l'occasion aujourd'hui de découvrir qu'il est possible que nous soyons parfois lumière et parfois sel. Ça veut dire qu'on est peut-être appelé un jour à éclairer quelqu'un ou à être éclairé par une certaine lumière. Et on a aussi peut-être à faire découvrir autour de nous les saveurs que nous portons dans notre façon d'être et d'agir. Et peut-être aussi qu'on va découvrir qu'il y a du sel quelque part qui peut donner un sens nouveau à notre vie, un goût nouveau à notre vie. Yvan Mathieu signe un propos intéressant qui va nous préparer à vivre tantôt le volet évangile. Et dans le prion, il a coiffé son propos du titre « Une pincée de sel ». Depuis le jour de notre baptême, nous sommes disciples du Christ. La parole de Jésus, ce dimanche, nous concerne donc au premier chef. Plongés dans l'amour de Dieu, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Notre mission est d'assaisonner le monde à saveur d'évangile et de faire briller la lumière du Christ qui nous a été confiée. Facile à dire, mais difficile à vivre. Comment offrir aujourd'hui un témoignage de foi? Proposer la lumière de l'Évangile sans essuyer un refus catégorique ou passer pour un moralisateur intransigeant. Se référer à Jésus passe toujours, mais si vous parlez au nom de l'Église, vous risquez d'être reçu comme l'apôtre Paul à Athènes. Sur cette question, nous t'écouterons une autre fois. Il importe donc d'offrir la lumière en évitant d'aveugler, de manier la salière avec prudence. À trop saler, on finit par rendre amer. Le bon cuisinier utilise les épices pour faire ressortir le bon goût des aliments. Et Yvan Mathieu poursuit ainsi. Chaque Eucharistie renouvelle chez nous le goût de l'Évangile, ravive en nos cœurs la lumière du Christ. Puisse l'Esprit nous inspirer le geste concret qui sera proclamation de l'Évangile. Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. C'est ainsi que conclut Yvan Mathieu en citant Isaïe. Ça nous met un peu dans le ton de cet échange qu'on aura un petit peu plus tard avec le père Jean-Yves Marchand, carmélite, et on aura à échanger sur cet évangile où il est question justement de sel et de lumière. Mais ce propos que je viens de lire, j'ai l'impression qu'il a des échos déjà dans le cœur de notre invité. Et il me fait plaisir d'accueillir Serge Saint-Arnaud, un petit cousin de la famille, de la grande famille des Saint-Arnaud, de la région de la Mauricie et d'ailleurs. Alors, Serge, bienvenue.
Oui, merci.
Nous sommes heureux de vous accueillir ici, à la fois chez vous, mais vous avez un autre chez vous depuis de nombreuses années. Vous avez décidé un jour d'aller faire du travail, d'aller accomplir une mission. Et c'est pour, j'imagine que c'est pour ça qu'on vous appelle missionnaire. Mais tout ça a un début. Et je me souviens avoir lu dans un article de Marc Rochette du Nouvelliste qui a été publié en septembre dernier, où on vous qualifiait d'ambassadeur latuquois. Vous êtes d'abord un natif de la région, mais de Saint-Adelphe.
Oui, mais je suis arrivé à Latuc, j'étais tout bébé. Mes parents ont déménagé en 1956, mon père pour travailler à l'usine de papier. Donc, j'ai grandi à Latuc, j'ai fait mon école primaire, secondaire. Donc, je m'identifie davantage comme un Latucois, même si mes origines familiales sont de la région de Saint-Adelphe, Saint-Stanislas, en fait, la rivière
Batiscan. Oui. Et c'est pour ça que Marc Rochette avait coiffé son article d'Enfant du Bel Air à Père d'Afrique, parce qu'il faut dire, c'est quoi Bel Air? Dans l'esprit du Latuquois, c'est connu. Mais...
Oui, en fait, c'est le quartier Bel Air. C'est un quartier résidentiel situé en bas de la côte du Bel Air, qu'on appelle, un quartier strictement résidentiel. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là, et pour nous, aller à Latuc, c'était grimper cette petite colline pour aller en ville. Donc, on allait, nous aussi, à Latuc, et on revenait de Latuc pour vivre chez nous, au quartier, dans le quartier du Bel Air. Donc, je m'identifie davantage à ce petit coin de ville, de la ville de Latuc, où j'allais très souvent m'évader dans... près de la rivière Saint-Maurice, ou aller me promener dans la forêt voisine, un peu par plaisir aussi avec les copains.
Et c'est là, à Latuc, Serge, que la vocation s'est présentée dans votre vie.
Ben écoutez, là, c'est pas si évident que ça de parler de la vocation missionnaire. Ben, ça a commencé quelque part, évidemment. Mais je serais mal pris pour vous dire à quel moment précis.
Où ça s'est produit, oui.
Mais c'est quelque chose, comme une inspiration qui date de très longtemps, je crois. J'ai toujours été attiré par quelque chose de différent. Vous savez, la ville de Latuc est comme une petite île entourée de forêts, comme peut l'être une île entourée d'eau.
Oui.
Alors, au lieu d'être une île sur au beau milieu du Pacifique, on est une île entourée de forêts. Et nos lieux de communication, nos routes de communication, ben, elles sont très simples. C'est ou bien on va vers Shawinigan, vers le sud, ou on va au lac Saint-Jean. Et cette idée de voyager est comme inscrite dans la nature même des Latuquois. Si on veut aller quelque part, il faut prendre la route.
Oui.
Donc, le mouvement, la route, fait partie un peu de nos racines culturelles latuquoises. Mais en même temps, on aime bien accueillir les visiteurs. Mais je pense que l'idée d'aller ailleurs est comme aussi une nécessité. Trois-Rivières est un pôle d'attraction. Et je me rappelle très bien, dans ma jeunesse, avoir ce désir d'aller ailleurs, d'aller découvrir autre chose. Et ce désir était si profond que lorsque j'étais à l'université à Trois-Rivières, j'ai été rapidement attiré à mieux connaître le monde africain grâce à la présence des étudiants africains à l'époque. Et j'ai appris très tôt le nom des pays africains, même leur capitale, etc. Et progressivement, ce désir de mieux connaître l'Afrique m'a conduit à devenir moi-même un petit Africain, si vous voulez. dans le sens que j'ai réalisé mon rêve d'aller en Afrique et en plus comme missionnaire, membre de la communauté des missionnaires d'Afrique. Et ça remonte à l'année 1980 environ, donc ça fait déjà plus de 30 ans. Et ma première expérience a été au Zaïre, l'actuel Congo, qu'on appelle démocratique. Mais récemment, j'ai fait une dizaine d'années dans un autre pays africain qui s'appelle le Malawi.
On aura justement l'occasion d'aller dans les détails de cette mission au Malawi, parce qu'il y a quelque chose qui est directement lié à ça. Il y a un beau projet qui est en train de s'installer, et on pourra donner les détails tantôt. Pour le moment, on s'en va tout doucement vers le volet évangile que j'ai annoncé tantôt, où il sera question de sel et lumière. Et Robert Lebel, en 2002, a composé une fort jolie chanson pour les Journées mondiales de la jeunesse à Toronto. Et justement, c'était sur ce thème, Lumière du monde.
De nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons. Qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu. Si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons. Celle n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau, vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nous vivrons ce goût de vérité. vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter.
Quelle magnifique chanson. Oui. Lumière du monde, Robert Lebel. Et ça remonte déjà aux Journées mondiales de la jeunesse de Toronto en 2002. Alors, on est rendu au moment de l'Évangile. On va regarder de près cette belle page de Saint Matthieu. Et ensuite, on ira joindre Jean-Yves Marchand au téléphone pour échanger avec lui sur ce texte. D'abord, ce texte de Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire. » Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors voilà pour ce bref texte de Saint Matthieu. On va maintenant au téléphone joindre le Père Jean-Yves. Bonjour Père Jean-Yves.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Bon, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que devons-nous comprendre par cette phrase?
Je pense que le premier sens, tout naturellement, qui nous vient à l'esprit, c'est qu'une chrétienne et un chrétien, ils se doivent de vivre certaines valeurs de manière exceptionnelle mieux que d'autres, hein?
Mm-hmm.
Par exemple, la solidarité, l'entraide mutuelle, la joie, la confiance en Dieu, etc. Mais je pense aussi que le Seigneur va plus loin. Il ne nous indique pas uniquement ce qu'il attend de nous. Il nous demande de le faire efficacement. Et pour être efficace, il faut deux conditions.
Et quelle est donc la première condition, selon vous?
La première condition, c'est que ces valeurs ne doivent pas être seulement un coup de tête, une décision, du théâtre, hein? Que votre lumière, nous dit l'Évangile, brille devant les hommes. Alors, c'est la lumière, c'est la sincérité qui doit briller, et c'est pas un jeu de rôle.
Voilà qui est clair, Père Jean-Yves. Mais maintenant, la deuxième condition pour que nous vivions efficacement les valeurs chrétiennes?
La deuxième condition, je dirais que c'est l'efficacité. C'est que nous agissons ainsi pour le Seigneur, hein? Et non pas pour bien paraître nous-mêmes, non pas parce que nous désirons que tout le monde soit comme nous. Non, l'Évangile est précis. En voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
Mais, Père Jean-Yves, nous vivons dans un monde où le paraître trône en roi. Dans un tel contexte, l'humilité en arrache un peu.
Moi, je le reconnais, hein. Il faut bien être réaliste. Alors, il faut dire que si nous nous exposons là efficacement, sans retenue au regard des autres, sincèrement, et pour que Dieu soit mieux connu, ils vont ne pas seulement voir nos qualités, c'est tout nous-mêmes qu'on verra. Donc, nos défauts apparents, nos défauts cachés, deviendront eux aussi plus visibles.
Que faire alors, Père Jean-Yves? Faudrait-il essayer de cacher la réalité de nos faiblesses et de nos défaillances et essayer de ne laisser transparaître que certaines valeurs comme la solidarité, l'entraide mutuelle, la joie, la confiance en Dieu?
Non, justement pas. nous n'avons pas à essayer de camoufler nos défauts. Il faut simplement les montrer, en toute simplicité, par exemple, sans les étaler. Hein. De toute manière, ils paraîtraient, hein, même si on essaie de les cacher. Alors, ceux qui nous verront vont se rendre compte de deux choses qui sont importantes, à mon avis. D'abord, c'est que nous acceptons humblement d'avoir des défauts, ce qui ne nous empêche pas de faire tout notre possible pour vivre avec le Seigneur. Et là, cette façon de faire franche, ça va être la meilleure preuve que rien n'empêche personne de faire la même chose. La deuxième chose, c'est que ça va être la preuve que le Seigneur peut faire en nous des belles choses malgré nos défaillances. Nous allons montrer que nous avons un Dieu qui se fait proche de nous parce que nous en avons vraiment besoin.
Père Jean-Yves, à vous entendre, on a l'impression que même nos défauts peuvent devenir lumière entre les mains du Seigneur.
Exactement, Royal. Car il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous rendre lumineux pour les autres, hein, mais il vient à nous pour nous rendre lumineux. Ainsi, même nos défauts vont servir à ce que Dieu soit plus connu et plus aimé. Il dit dans l'Évangile, en voyant ce que vous faites de bien, ils vont rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. Et le Seigneur demande tout, absolument tout. Il inclut nos points faibles. Que votre lumière brille devant les hommes.
Nous découvrons de cette manière, Père Jean-Yves, il est plus simple qu'il ne paraît de vivre en être de lumière. Et ça se démontre aussi que c'était accessible à tous. Ben, merci beaucoup de nous avoir partagé votre belle réflexion. Et soyons lumineux, tiens.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Alors voilà, on vient, Serge, d'entendre le Père Jean-Yves qui vient de nous placer dans le contexte de la lumière. Hein. On découvre que nos petits travers peuvent se transformer et devenir lumière dans l'ordinaire de notre vie. Avez-vous vécu ça, vous?
Vécu la...
la lumière?
La lumière.
ainsi présentée.
À être la lumière pour les autres. Ben, je pense qu'il faut d'abord vivre un moment lumineux dans notre propre vie intérieure avant d'espérer pouvoir être lumière pour les autres.
Oui.
Bon, commençons par soi-même. Est-ce que je porte en moi-même une parcelle de lumière? Puis entre vous et moi, est-ce que quelqu'un peut me définir la lumière? Même les scientifiques sont pas d'accord à définir la lumière. Est-ce que c'est une particule ou une onde? Enfin, mais l'idée, c'est que nous voulons regarder, si je comprends bien, dans ma vie intérieure, dans ce que je porte en moi-même. Est-ce que je peux refléter par mon action, par ma présence, par ma manière d'être, est-ce que je peux refléter quelque chose qui est lumineux? Bon, sans pouvoir définir exactement ce que ça peut être, mais il me semble qu'avant tout, on peut être lumière dans la qualité de relation humaine, la qualité d'accueil, et je l'ai vécu profondément dans le milieu africain qui m'a accueilli tel que j'étais, étranger, un blanc, venu d'une autre culture. Et je suis en admiration encore maintenant de la qualité d'accueil que j'ai toujours reçue en Afrique, que ce soit au Congo, que ce soit au Malawi, et je suis persuadé que c'est la même chose ailleurs. Et c'est cette qualité d'accueil qui fait qu'au-delà des différences culturelles qui nous différencient même à l'extrême, on peut encore partager quelque chose de lumineux. Et j'ai eu des relations très amicales, des amis très proches au Zaïre, au Congo, au Malawi, comme je mentionnais. Et ce n'est pas à cause de la langue que les choses se sont facilitées. Au contraire, imaginez, j'ai appris deux langues africaines, le Kiswahili et récemment le Tshitshewa. Demandez-moi pas trop d'en parler pour le moment. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des difficultés de la langue, la communication même d'une langue étrangère, il est possible de partager quelque chose de lumineux qui va toucher les cœurs, qui va toucher quelque chose de plus précieux que simplement des idées. Je pense que cette possibilité d'un cœur à cœur avec des gens complètement différent de nous-mêmes en termes culturels et historiques, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui. Vous êtes prêtre missionnaire en Afrique depuis de nombreuses années et d'une façon particulière depuis 2001 au Malawi, ce qui nous amène sur ce fameux sujet dont j'ai tantôt un peu levé le voile, c'est ce recueil, si on peut l'appeler ainsi, ce regroupement de lettres, de correspondances que vous avez eues avec les gens d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y a eu une liste, je regardais la liste de vos correspondants, c'est assez impressionnant. Et ça va se retrouver dans ce qui pourrait s'appeler un journal d'une décennie au Malawi, et sous le titre de « Rivière de diamants ».
Ben, c'est une idée qui a surgi récemment. En fait, ce qui est arrivé, j'ai régulièrement écrit à mes amis via le courriel électronique quelques lettres sur mon expérience au Malawi, mes difficultés d'adaptation, les différents problèmes rencontrés, comme par exemple la famine de 2002, et mes déplacements à différents endroits, à un centre culturel ou à un centre d'analyse sociale. En fait, j'ai essayé à travers ces quelques pages de partager avec les gens d'ici ce que je vivais, sans savoir très bien où cela mènerait, mais avec le seul souci de partager certaines de mes expériences, de mes découvertes. Et puis, à la fin de mon séjour au Malawi, après 9 années, regardant l'ensemble de ces documents, de ces lettres, ben, je me suis dit peut-être qu'on pourrait les regrouper et les présenter comme un livre, comme un récit de voyage. Alors, c'est sur ce projet que je travaille présentement et je ne sais pas encore si ce projet va se réaliser en termes d'édition. Mais de toute façon, j'ai déjà partagé la plupart de ces lettres avec mon petit réseau, mais pourquoi ne pas aussi l'élargir un peu plus?
Très bonne idée. Et dès l'ouverture, on constate que vous voulez dédier ce livre à votre sœur Annie.
Oui, en fait, vous vous rappelez certainement la tragédie de la Polytechnique de Montréal en 1989, le 6 décembre pour être plus précis. Alors Annie était l'une des premières victimes de cette tragédie. À l'époque, j'étais au Zaïre. Et bon, c'est un moment tragique, je dirais national, mais aussi très proche, enfin familial. Pour vous donner une idée, dans ma famille, il nous a fallu 8 années pour commencer à reparler d'Annie, la mentionner clairement dans nos entretiens, tellement ce deuil a été profond. Bon, maintenant, ça fait 20 ans, mais j'ai constaté à travers ce récit de voyage que régulièrement, je parlais d'Annie. Et à la fin de ce périple, faisant la relecture de l'ensemble de ces 10 années de correspondance, eh bien, je me suis rendu compte que ma sœur Annie était présente du début jusqu'à la fin. Pas à chaque page, mais d'une manière assez constante. Et il m'a semblé tout à fait indiqué d'offrir la publication de ce livre à ma sœur, d'autant plus que je parle assez fréquemment dans ce récit de la condition des femmes, le problème de la violence. Et puis, à la toute fin, j'ai eu un appel téléphonique, soit dit en passant, d'un journaliste de Radio-Canada me demandant une interview par téléphone pour souligner le 20e anniversaire de la tragédie. Et j'ai refusé. Je ne me sentais pas en mesure de faire un tel enregistrement. Mais ça m'a donné, d'un autre côté, l'opportunité d'écrire quelque chose, d'écrire sous forme poétique, ce qui me semblait le plus essentiel. Et j'ai élargi ma réflexion au-delà de la tragédie de la Polytechnique de Montréal pour englober l'ensemble des tragédies humaines.
On va avoir l'occasion, Serge, de revenir sur certains détails en lien directement avec cet ouvrage « Rivière de diamants » dont on parle présentement. Et au tout début, j'ai mentionné que parmi les chansons qu'on va entendre à l'émission, il y a celle-ci. Je parlais de 14 chanteuses du Québec et c'est en 1999, dans le cadre du 10e anniversaire des événements polytechniques, qu'on a présenté cette chanson-là, composée par quelqu'un de chez nous, M. Thivierge. Alors, je pense que les gens vont redécouvrir l'importance et la profondeur de ce texte tout de suite après la pause. 14.